Frédéric Ancel est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Frédéric, vous êtes docteur en géopolitique, professeur de relations internationales, et je citerai seulement le dernier ouvrage, puisqu'il y a quand même toute une bibliothèque qu'on pourrait citer ce soir. Le dernier s'intitule « La guerre mondiale n'aura pas lieu », à paraître chez Odile Jacob la semaine prochaine. Merci de accorder à Radio Shalom les primeurs de vos réflexions. C'est vrai qu'on vous connaît, qu'on vous suit, qu'on vous apprécie depuis très longtemps. Et je voudrais vous poser la question suivante. Ce matin, on apprend dans Israël Hayom que Donald Trump, après avoir proposé il y a un mois seulement le départ de 1,8 million de Palestiniens de Gaza, ce matin, après avoir rencontré le Premier ministre d'Irlande du Nord, il dit « Ah mais non, pas du tout, c'est pas à l'ordre du jour, personne ne pense qu'ils vont partir. » Bon, en fait, pour être très honnête, il dit « Personne ne va les expulser », ce qu'il avait déjà un peu dit auparavant. Il parlait de départ volontaire. Mais enfin, on a l'impression déjà au moins que le ton change, d'autant plus que son envoyé spécial au Proche-Orient a participé à une réunion avec les chefs de la diplomatie arabe, au grand complet, pour parler d'un plan de reconstruction de la bande de Gaza, sachant que les États-Unis avaient rejeté ce plan. Alors, je voudrais savoir comment vous analysez ça, parce qu'il y a plein de façons de le voir. Je voudrais savoir quelle est la vôtre.
Les choses sont simples. Trump raconte n'importe quoi. Donc, moi, je veux bien qu'on essaie de trouver une deuxième, une troisième couche tactique, façon Kissinger, années 70, avec Nixon, sur un coup de billard à trois bandes. Enfin, il faut être sérieux. C'est Donald Trump a un or de sa boussole exclusif qui est le mercantilisme. Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me rapporte? D'ailleurs, de ce point de vue-là, il est très cohérent et on ne peut même pas en vouloir aux citoyens de l'Alabama et les autres citoyens américains qui l'ont élu de manière parfaitement démocratique pour vous. Enfin, on ne peut pas leur en vouloir d'apprécier ce type de discours qui, après tout, d'ailleurs, est très américain et qui, au fond, a toujours été le sien. Maintenant, le problème, quand je dis qu'il raconte n'importe quoi, c'est quand il y a quelques semaines de ça, il dit 2 millions ou 1 million 8 de Palestiniens vont partir de Gaza et ils ne reviendront pas. Il a été très clair, d'ailleurs, il avait dit 2-3 fois, hein. Il était très clair. Moi, j'avais immédiatement pointé une injonction totalement contradictoire avec lui-même. Avec lui-même. Trump a toujours affirmé qu'il n'enverrait pas un soldat en dehors des frontières américaines. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, enfin, c'est ce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de soldats américains déployés pour la première fois depuis longtemps sous son premier magistère. Bon. Comment donc faire, sinon utiliser de la magie, pour faire partir de force des centaines de milliers ou 1,5 million de personnes de la bande de Gaza ou d'ailleurs, sans envoyer des soldats? En envoyant quoi? Des plagistes, des promoteurs immobiliers? Enfin, c'est ridicule, quoi. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a pas de crédibilité a priori. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais à entretenir vis-à-vis de ce personnage. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il faut y prendre garde et surtout prendre garde à ses propres injonctions contradictoires. C'est même pas la question morale. Il y a une vraie question morale de ce point de vue-là. Mais surtout, le problème, c'est qu'il annonce quelque chose qu'il ne peut pas faire parce que sa propre idéologie l'en empêche et parce que son propre programme, on va dire non interventionniste, on va l'appeler comme ça, en tout cas ces dernières années, l'en empêche. Et effectivement, le résultat, c'est que quelques semaines plus tard, de façon extrêmement crâne, libre, calme, comme vous le rappelez très bien, bah, il dit à peu près le contraire. Je vais vous dire franchement, avec ce genre de personnage, même les Israéliens, je le disais d'ailleurs dans la chronique dans l'Express il y a quelques mois, même les Israéliens, même le gouvernement israélien devrait se méfier. Parce que il est certes très favorable.
Ah voilà, ça c'est la deuxième question. Bravo monsieur le professeur, vous passez directement à la deuxième question. Parce que, et j'ai même envie de vous faire un sourire, nous sommes à la veille de Pourim, ce roi-là, il peut changer, hein. De la même manière que du jour au lendemain, il est capable de, ben, comme là, comme vous le dites, il peut balancer n'importe qui, des Ukrainiens, des Mexicains, et des Israéliens seraient peut-être plus durs, mais on écoute votre expertise.
Non, c'est-à-dire qu'il est pro-israélien, mais il l'est d'abord parce que il y a 99 millions d'évangéliques aux États-Unis. Il ne peut pas ne pas en tenir compte, ça c'est pas possible. Et ils l'ont aidé à être élu une première fois, a failli être élu une deuxième fois et là à être élu une deuxième fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'État d'Israël concrètement lui apporte. Alors certes, il y a ce qu'Israël touche au titre du respect des accords de Camp David de 79 avec d'ailleurs l'Égypte. Bon, mais en réalité, lorsque Israël touche des Américains, enfin des États-Unis, de l'argent public, c'est largement, pas exclusivement, mais largement pour acheter où ça? Bah évidemment, sur étagère, aux États-Unis, des matériels militaires qui rapportent à qui? Aux États-Unis. Bon, donc il faut être sérieux. Israël, en réalité, rapporte aux États-Unis, sinon je pense qu'il serait beaucoup plus sévère. Mais surtout, dans la région, son grand allié, sachant qu'il n'a strictement aucun allié, donc en réalité, l'État qu'il choisit le plus, et depuis des décennies avant même qu'il ne devint politique, c'est évidemment l'Arabie Saoudite, pour une raison archi-claire et très mercantile, c'est que l'Arabie Saoudite est ultra solvable et sera éternellement solvable. Et l'Arabie Saoudite achète par paquets de dizaines de milliards de dollars de matériel civil et militaire aux États-Unis depuis plusieurs décennies et qu'ils vont continuer à le faire. Et c'est là que je veux en venir et je dis d'un mot. Bien sûr que Trump continuera à soutenir Israël, qui par ailleurs est un très bon gendarme dans la région et sur le plan technologique, apporte aussi à l'économie militaire américaine, très bien. Mais à condition que ça ne coûte pas aux États-Unis. Or, et c'est là que je veux en venir, si les Israéliens décidaient d'aller frapper l'Iran, enfin les installations nucléaires iraniennes, et que l'Iran, en guise de rétorsion, frappait, ce qui serait absolument évident, les alliés des États-Unis dans la région, alors je pense évidemment à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, ça coûterait combien aux États-Unis? Et là, je serais très prudent. Là, si j'étais israélien, je serais très prudent parce que Trump connaîtra une limite, une ligne rouge à sa grande affection pour Israël, c'est le dollar, c'est le mercantilisme.
Et il y a aussi autre chose qui inquiète, c'est qu'il a peut-être une forme d'alliance aussi avec le Qatar.
Oui, mais alors encore une fois, l'alliance, il faut bien comprendre hein, ce qu'on appelle alliance chez
un
Trump.
Deal. Tout le monde dit, quand on parle de Trump, on dit deal maintenant.
Voilà. Oui, non, mais c'est ça, merci. Non, mais c'est ça. Ben, ça le Qatar a acheté, ils ont acheté une modeste flottille de Rafale, c'est très bien. Enfin, pour le reste, évidemment, ils achètent américains. Et s'ils promettent d'acheter à concurrence tant de milliards et surtout tant de matériel à haute valeur ajoutée et à forte plus-value, oui, bien sûr, ils auront les faveurs de M. Trump, sinon ils ne les auront pas, point. N'allez pas chercher plus loin. Et le Qatar peut bien entretenir une politique archiduplice, y compris vis-à-vis d'Israël, y compris contre Israël, mais je veux dire, pardon, mais Trump s'en fiche complètement, ce n'est pas son problème. Hein. Et d'ailleurs, on verra dans les prochains mois, comme on l'a vu ces derniers temps, qu'il a pu également promettre l'enfer, je le cite, hein, l'enfer, et à deux reprises d'ailleurs, hein, au Hamas s'il ne libérait pas l'intégralité des otages en quelques heures. L'intégralité des otages n'a pas été libérée en quelques heures, et l'enfer ne s'est pas abattu sur le Hamas. Donc encore une fois, hein, je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ce président dont la seule, je le répète, dont le nord de la seule boussole relève du mercantilisme. Je dépense un dollar, je veux que ça m'en rapporte deux.
Est-ce que dans ce contexte, je me souviens encore des longues interviews que nous aviez données parlant des intérêts communs entre Israël et la Russie. Est-ce que dans ce contexte, vous pensez qu'Israël doit se rapprocher des Russes?
Non, Israël n'a rien à faire, me semble-t-il, avec la Russie, pour au moins deux raisons. D'abord parce que Poutine est très simplement sans foi ni loi. Alors pour des raisons non mercantiles, c'est différent. Lui, il s'inscrit davantage dans un registre idéologique. C'est entre quelque part entre Catherine II et Staline, en réalité. Bon, ce qu'il cherche à recréer, c'est une forme d'empire. L'argent est moins... correspond moins à sa boussole fondamentale. Mais pour le reste, il est sans foi ni loi. Il a abandonné en rase campagne les Arméniens en 2020 face à l'Azerbaïdjan. Il a abandonné en rase campagne Assad après plus de 50 ans, plus de 60 ans d'alliance militaire entre la Syrie et l'URSS puis la Russie. Et il a démontré de l'Asie centrale à la Moldavie en passant par d'autres forces en Afrique du Nord et au Moyen-Orient qu'en réalité il n'avait strictement aucune parole et que la valeur d'un pacte militaire ou diplomatique avec Moscou n'avait strictement aucune valeur. Alors attention, ce que je vous disais était juste à l'époque où la Russie de Poutine avait un intérêt a laissé les chasseurs bombardiers israéliens utiliser l'espace aérien syrien, moyennant quoi la Russie faisait ce qu'elle voulait par ailleurs et n'était pas touchée à Tartous et Latakia, enfin là où se situaient ces bases. Et les Israéliens, d'ailleurs, ne mettaient pas en péril le pouvoir de Bassad. Donc là, il y avait une espèce d'entente, on va dire, enfin, je ne vais pas dire cordiale, mais un échange de, entre guillemets, de bons procédés. Mais aujourd'hui, je ne vois pas très bien quel serait l'intérêt pour Israël de se rapprocher de la Russie qui, de toute façon, aujourd'hui, est empêtrée en Ukraine. Et quand bien même il y aurait un cessez-le-feu, je pense qu'il interviendra, en Ukraine, qui, de toute façon, consacrerait pratiquement tous ses efforts à l'Ukraine, ce qui ne correspond pas aux marches immédiates d'Israël. Israël, aujourd'hui, est intéressé par ce qui se passe notamment à Gaza et en Syrie et au Liban, mais les Russes n'y sont plus.
Frédéric Ancel, une dernière question sur le statut international d'Israël. Je voyais encore ce matin une commission d'enquête indépendante, qui a le tampon ONU, mais c'est indépendant, qui accuse les Israéliens d'avoir des pratiques génocidaires en ayant monté une espèce de système. Je vous dis franchement, c'était tellement gros texte que j'ai lu le texte en diagonale, parce que finalement, c'est pas sur le texte que je veux avoir votre avis. Si vous allez voir sur quoi. Voilà, il y a une pratique génocidaire qui fait en sorte que les Palestiniens ne puissent plus avoir d'enfants. Et puis, comme ça, donc, il y aura moins de Palestiniens. Et donc, c'est aussi une forme de génocide. Et par ailleurs, les soldats ont l'habitude de déshabiller les Palestiniennes et de les violer quasiment. Bon, bref, ONU, hein. Indépendant, mais de l'ONU. Or, je me suis dit, moi, ce matin, c'est bizarre parce que j'avais l'impression que ça s'était calmé. Tout ce délire, tout ce... Je ne sais pas, moi, dans ma vie de journaliste, hein, donc c'est plutôt quand même mon métier de regarder. C'est pas que j'ai oublié, c'est pas que je vends des fleurs. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Bon. Et non, pas tant que ça. Alors, vous, de nouveau, en tant qu'expert, on en est où ?
Alors deux réponses très factuelles. La première, l'ONU, c'est une gigantesque machine qui comporte énormément d'institutions, de sous-institutions. La plupart n'ont qu'un rôle consultatif. Donc, il faut faire attention. Quand on dit c'est l'ONU, bah oui, ça peut très bien être une ONG ou une institution liée à l'ONU. D'abord, je veux savoir dans quelle mesure elle lui est liée. Est-ce qu'elle est fondamentalement et statutairement partie prenante des travaux de l'ONU ? Oui, non, dans quelle mesure ? Et à la fin des fins, de toute façon, ce qui compte, c'est vraiment, enfin, en tout cas politiquement, c'est vraiment le Conseil de sécurité. Enfin, c'est vraiment là que les cinq permanents décident, enfin, votent des résolutions. Bon. Et en l'occurrence, cette résolution, elle n'est pas passée au Conseil de sécurité. Ça, c'est une certitude. Donc c'est, si vous voulez, vous ne pourrez pas empêcher des gens, des militants, parfois des militants fanatiques, se réclamant ou pas d'ailleurs de l'ONU, de dire absolument n'importe quoi ou d'être archi outrancé. Ça, vous ne pourrez jamais leur empêcher complètement. Maintenant, le deuxième point, il est très clair. Vous vous adressez à quelqu'un qui travaille depuis de très nombreuses années, qui d'ailleurs fait des conférences, et je le remercie de sa confiance, au Mémorial de la Shoah, et qui a travaillé beaucoup sur les génocides des Arméniens, sur celui des Tutsis, sur donc évidemment la Shoah, sur la prise de Phnom Penh par les barbares Khmer Rouge au Cambodge, etc. Et j'organise chaque année, j'en profite d'ailleurs pour le dire, le 29 avril prochain à la mairie du 9e, entrée totalement libre, il y aura les 15e assises nationales contre le négationnisme. Donc, je touche un tout petit peu ma bille, mais moins que les historiens sérieux qui savent très bien ce que c'est qu'un génocide. Alors, je vous réponds clairement, non, non et non, Israël ne commet pas, n'a pas commis, non seulement de génocide, mais n'a pas commis de politique pouvant être assimilé de près ou de loin à une pratique génocidaire.
C'était pas ma question, évidemment. Ma question, c'était est-ce que ça se calme ? Non, je ne me suis pas posé la question à moi-même et je ne voulais pas poser à vous.
Mais le premier élément de la réponse, c'est encore une fois, c'est que l'ONU, il faut faire attention.
Ah ouais, donc ça ne veut rien dire. En gros, ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire, c'est que si vous voulez, vous, encore une fois, c'est une. Regardez là, le fonctionnement de l'ONU, c'est vraiment enfin une machine tout à fait énorme. Et vous avez plusieurs commissions, vous avez des institutions qui lui sont très directement
attachées. Moi, j'ai siégé à l'ONU.
La FAO, l'UNESCO, etc.
Vous me croyez si je vous dis que j'ai siégé à l'ONU ?
Je vous promets que c'est vrai. Chapeau, formidable. Bravo.
J'étais israélien à l'époque. Enfin, j'avais pas la nationalité israélienne, mais j'étais étudiant à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv. Et j'étais membre de la WJES, qui est la World Union of Jewish Students.
Mais je connais très bien, mais bien sûr.
Et j'étais délégué WJES, à côté de moi, il y avait un délégué Viso, une femme juive sioniste. Et alors vous voyez qu'on peut faire partie de l'ONU et avoir vraiment des positions tout à fait différentes de ce que je viens de d'écrire à l'instant. Je voudrais renvoyer les auditeurs à votre nouveau livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu. On a envie d'ajouter Amen parce qu'on est sur Radio Shalom. La guerre mondiale n'aura pas lieu, apparaître la semaine prochaine. Donc merci beaucoup de nous avoir choisi en premier. Chez Odile Jacob. Bonsoir à vous, Frédéric.
Bonsoir. Merci.